France Culture. France Culture. Grand reportage, Camille Magnard.
Je peux vous dire que je me suis vraiment construite avec la douleur à une époque. Moi, il y a demandé quand j'avais 15-16 ans ce que c'était la douleur c'était juste, c'était moi. C'était la seule chose qui me définissait. J'avais mal et j'étais malade.
Je me suis séparée en partie à cause de cette douleur qui devenait invivable, je pense, pour tout le monde.
Certains gestes sont, c'est pratiquement l'équivalent chez un très jeune enfant d'une ponction lombaire qu'on ferait un adulte. Donc là, il faut quand même vraiment s'en occuper de cette douleur.
Elle est à l'origine des deux tiers des consultations en médecine générale. Souvent, la douleur est un premier symptôme, une alerte et le début d'un parcours de soins. Mais peut-être faites-vous partie des plus de 12 millions de personnes dans ce pays qui vivent au quotidien avec une douleur chronique, une douleur qui dure donc depuis plus de 3 mois. C'est un Français sur 5 et dès lors la douleur n'est plus un signal mais une constante qui prend toute la place, un mal en soi qui gâche des vies, abîme des corps et creuse des traumatismes parfois plus profonds encore que la douleur même. Alors faut-il vivre avec, la souffrir en apprenant au mieux à la maîtriser comme le pensaient les stoïciens Il y a 20 siècles, longtemps la douleur a été vue comme une fatalité, un territoire mal défini aussi sur lequel les médecins ne s'aventuraient guère, laissant le patient face à l'expérience individuelle de sa souffrance. Mais depuis quelques décennies, on voit se développer une vraie prise en compte collective de la douleur, de ses causes, de ses mécanismes et des manières de la traiter. Il était temps. On estime que la non-prise en charge de la douleur engendre un surcoût de 12 milliards d'euros par an pour notre système de santé. Et en la matière, on va l'entendre, les médicaments, la chimie ne sont qu'une partie de la réponse. Des solutions croisées pour dénouer la douleur, c'est un grand reportage d'Aurélie Kiefer. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous êtes partie pour ce grand reportage à la rencontre de patients et de médecins qui développent des réponses donc aux douleurs chroniques. Elles prennent ces réponses des formes très variées et ça semble logique finalement face à quelque chose d'aussi complexe et polymorphe que la douleur elle-même.
Oui, pour décrire la douleur chronique, la pédiatre Catherine de Volder, que j'ai rencontrée à Amiens, utilise la métaphore de la pelote de laine. C'est un enchevêtrement dans lequel il peut y avoir un choc de départ qui cause une lésion physique. Mais cet accident peut survenir à un moment où on est fragile émotionnellement. Et si on est anxieux, voire dépressif, eh bien, le fait d'avoir mal peut renforcer l'anxiété qui va elle-même accentuer la douleur. Du coup, on ne va plus oser bouger et puis ben, ça ne va pas arranger les choses. Donc, vous voyez le cercle vicieux. Il y a aussi un contexte affectif, la façon dont notre entourage va réagir. Est-ce qu'il va plutôt nous surprotéger ou au contraire nier notre douleur, la minimiser? Tout ça va évidemment jouer sur notre ressenti. Donc, pour guérir ou tout au moins faire baisser l'intensité de cette douleur, eh bien, les soignants doivent démêler la pelote, faire la part des choses pour être en mesure ensuite d'apporter les bonnes réponses en fonction de tous les ingrédients qui composent ces douleurs. Pour ça, il faut souvent du temps. Et le premier problème avec la douleur chronique, c'est l'errance diagnostique. Les années perdues à souffrir alors que les solutions existent.
Et pour démêler la pelote, donc, nous sommes aussi avec le professeur Éric Serra. Bonjour à vous.
Bonjour.
En duplex des studios d'ICI Picardie à Amiens, puisque c'est là-bas que vous exercez comme psychiatre au CHU d'Amiens. Et professeur, c'est une compétence assez rare pour être remarquée en médecine de la douleur. Vous présidez également la SFETD pour Société Française d'Études et de Traitement de la Douleur. Mais avant de vous retrouver, on écoute ensemble votre grand reportage, Aurélie, où l'on fait d'abord connaissance avec Christian qui se croyait condamné à vivre avec une névralgie. C'est une douleur due à la compression d'un nerf.
Je suis Christian, j'ai bientôt 59 ans et pendant une bonne dizaine d'années, de 2004 à 2015, j'ai souffert d'une névralgie du trijumeau.
Quels étaient les symptômes? Comment est-ce que ça se manifestait?
C'était des symptômes chroniques qui ressemblaient à des chocs électriques assez violents Et plus ça avançait dans le temps, et plus c'était violent et handicapant, ça me forçait à prendre beaucoup sur moi-même pour parler, par exemple, ou pour manger. Et donc au travail, j'arrivais à peu près à maîtriser ça, alors qu'à la maison, c'était beaucoup plus difficile, et j'étais souvent très très fatigué, et la douleur était très intense, et donc par moments, ma famille croyait que j'étais vraiment refermé sur moi-même. Et puis après, je me suis séparé, en partie à cause de cette douleur qui devenait invivable, je pense, pour tout le monde. Et la douleur après n'a fait que s'accentuer. En septembre 2014, j'ai fait un malaise. Je suis tombé dans les pommes tellement la douleur était intense, un malaise vagal, donc pendant un exposé dans un séminaire.
Il y a eu un diagnostic assez rapidement ?
Non, ça a mis quasiment 5 ans avant de trouver un diagnostic. On m'a dit que c'était parce que je serrais les dents la nuit. Et un jour, un médecin généraliste m'a conseillé de rencontrer une neurologue qui m'a donc diagnostiqué cette névralgie. J'ai fait une IRM et l'IRM a démontré qu'un nerf était en contact avec une artère et donc créé ces chocs électriques de manière quasi continue et régulière. Et bon, le fait de savoir le diagnostic m'avait soulagé, mais la neurologue m'avait dit que ce n'était pas soignable et qu'il fallait que je prenne cette douleur comme une douleur que j'aurais quasiment toute ma vie. Et donc, il fallait que je prenne des médicaments pour maîtriser cette douleur. Heureusement, quelqu'un a trouvé un centre antidouleur à l'hôpital Lariboisière et à la vue des IRM, finalement, le chirurgien de l'hôpital m'a dit que c'était opérable, m'a expliqué les risques de l'opération. Et la douleur était tellement intense que j'ai pris le risque. Donc il s'agissait d'ouvrir à l'arrière de la tête, donc au niveau du crâne, et de poser deux morceaux de téflon qui permettent d'isoler la liaison entre le nerf et l'artère. Et donc du coup, depuis, la douleur a totalement disparu.
L'opération a réussi, la douleur est partie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un vieux souvenir ou est-ce qu'elle a quand même laissé des traces ?
C'est très étrange, mais il y a encore, puisque je continue à grincer des dents, il y a encore de temps en temps des douleurs musculaires au niveau du visage qui ne sont pas aussi intenses, ou alors il peut m'arriver, comme tout le monde, d'avoir mal aux dents. Il y a une forme de mémoire de la douleur et donc je ressens les mêmes symptômes que les symptômes que j'avais quand j'avais la névralgie. Dès que j'ai mal aux dents ou mal à certains muscles du visage, j'ai des migraines. Ou alors le ventre qui se compresse un peu comme si j'étais très stressé. Quand j'avais la névralgie, je faisais beaucoup de relaxation, j'essayais de faire de la méditation, donc de maîtriser ma respiration. J'avais notamment repris l'aïkido, et donc j'utilise ces techniques-là pour essayer de faire passer ça. Mais il y a cette mémoire de la douleur. Et puis il y a un deuxième point, c'est que toutes les autres douleurs sont supportables au regard de ce que j'ai vécu. Donc il peut m'arriver d'aller courir en ayant mal au dos ou... peu importe par rapport au plaisir que je peux ressentir de courir, alors que j'ai par exemple fait un marathon avec la névralgie. Donc à chaque pas pendant la névralgie, je ressentais ce choc électrique. Donc pendant 42 km, c'est un peu complexe. Alors là, toutes les autres douleurs sont totalement accessoires.
Oui. Une journaliste qui travaille pour France Culture.
Pour très bien.
Je vais faire juste un petit tour du
coup. Très bien. J'adore Radio France.
Parfois, ce sont les soins eux-mêmes qui occasionnent des douleurs. Un acte chirurgical, par exemple, peut entraîner des douleurs pendant et après l'opération. C'est ce dont je vais parler avec le professeur Valeria Martinez à l'hôpital de Garches.
Merci. Donc là, on est en train de faire une intervention du genou, une gammatoplastie chez une personne de jeune. C'est une chirurgie qui est très douloureuse en post-opératoire. Ils sont en train de le faire par arthroscopie. Donc vous voyez ici les chirurgiens qui voient une caméra à l'intérieur et donc une porte d'entrée qui est des mini points d'incision. Donc comme vous voyez, le patient est totalement endormi. Ça veut dire qu'il n'entend rien, il ne voit rien et il ne sait pas ce qui se passe. Hein. Il ne se souviendra pas de ce qui s'est passé pendant l'intervention. Et de ce côté-là, on a une infirmière anesthésiste qui tout le long s'occupe du patient. Et surtout, malgré qu'il dorme, il faut quand même s'occuper de la douleur. Et Flora, tu peux nous dire un petit peu comment tu gères les messages douloureux pendant l'intervention?
Alors du coup, on surveille le patient est scopé, donc on analyse son rythme cardiaque, sa tension artérielle, et on a différents critères afin d'évaluer s'il est douloureux. On va avoir une tension artérielle qui va augmenter, on va avoir un rythme cardiaque pareil qui va s'accélérer, et donc du coup, on a des médicaments pour gérer l'analgésie et pour gérer les douleurs après.
Donc même s'il est profondément endormi, il y a quand même de la douleur pendant l'opération.
Oui, en fait, il ne va pas l'exprimer la douleur parce qu'il dort, mais on va le remarquer par des signes qu'on appelle végétatifs, c'est-à-dire une tachycardie, une fréquence cardiaque qui va augmenter, une augmentation de la tension artérielle. Et donc on surveille ça avec un scope. Et dès qu'on voit que le patient a ces signes végétatifs, on va lui donner des morphiniques, hein, des morphiniques par voie veineuse très puissants qui vont agir très rapidement et donc vont calmer cette douleur. En fait, un patient qui dort, il a trois produits. Un produit pour dormir, ça s'appelle la hypnotique. Un produit pour pas qu'il bouge, c'est les curares. Et un produit pour pas qu'il ait mal, ce sont les morphiniques. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que pendant l'intervention, on va anticiper son réveil et on va lui donner des antalgiques alors qu'il dort encore, mais pour anticiper la douleur quand il va se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Je pense que ce patient, il est sous anesthésie générale. On peut également faire ces techniques, ces interventions sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire qu'on endort une partie du corps complètement, on ne peut pas la bouger, il ne ressent pas, mais le patient reste éveillé. C'est des choses qui se font tout à fait actuellement en anesthésie et surtout pour des chirurgies des membres, des extrémités.
Et c'est fait pour quelle raison? Pour que le traumatisme soit moins important?
C'est vrai que ces anesthésies loco-régionales coupent complètement le message douloureux. Et dans ce cas-là, le cerveau n'imprime pas la douleur pendant ce geste, qui est un vrai traumatisme. Une chirurgie, c'est un traumatisme physique et psychique qui est important pour le patient. Il ne se souviendra pas, il ne ressentira pas. Alors vous avez vu, il y a la petite musique. Hein, ça, c'est pour relaxer les chirurgiens, les anesthésistes qui aiment bien travailler avec une petite musique de fond.
Pour limiter l'impact d'une opération, la chirurgie se fait moins invasive, avec des incisions beaucoup plus petites. En général, les douleurs suivant une intervention s'estompent en quelques jours, mais 5% des patients opérés restent douloureux après une chirurgie, et ce malgré la réussite de l'opération. Or, une douleur qui s'installe dans la durée risque d'avoir des retentissements en cascade sur le moral, sur le sommeil, le travail ou encore la vie de famille.
Je ne demande pas qui vous êtes.
Bonjour.
Un peu d'observation.
Voilà, vous voyez mon micro. Vous avez été prévenu de mon arrivée.
Bah quand même.
Comme quelques 270 structures en France, le centre antidouleur de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt prend en charge des patients atteints de douleurs chroniques.
Le centre d'évaluation et traitement de la douleur, c'est un centre en fait où on prend en charge les douleurs chroniques.
Le docteur Anna Chiara Spagna, gériatre et médecin de la douleur.
Déjà, une douleur chronique, c'est une douleur qui dure au moins depuis 3-6 mois. Du coup, on ne voit pas les douleurs aiguës. Les douleurs aiguës, en général, durent moins d'un mois, 3 mois. Et c'est en fait un centre où on prend en charge les patients de façon globale pour améliorer les douleurs. C'est pour une prise en charge de troisième intention, on va dire. Le premier intervenant dans la prise en charge d'une douleur, c'est le médecin traitant. En deuxième intention, c'est le médecin spécialiste. Ça peut être un rhumatologue, un neurologue, un gériatre ou encore un psychiatre, selon la pathologie que le patient présente. Et après, si la prise en charge du spécialiste n'est pas suffisante, le patient peut bénéficier d'une prise en charge au centre de la douleur. Et du coup, l'objectif d'un centre de la douleur, c'est déjà de comprendre l'origine des douleurs, poser un diagnostic, bien évidemment, et après proposer les approches thérapeutiques selon la pathologie qui touche le patient.
Brûlure, choc électrique, effet de compression, la douleur prend différentes formes. Ses causes sont multiples et parfois mystérieuses. Dans le cas des douleurs neuropathiques, il y a une atteinte des nerfs ou de la moelle épinière, ce qui peut perturber la transmission du message douleur au cerveau. On s'intéresse aussi de plus en plus aux douleurs nociplastiques, sans lésions apparentes, comme la fibromyalgie. Et l'on sait que le stress, l'anxiété ou la dépression peuvent aggraver la douleur. Il n'y a donc pas une réponse, mais toute une palette d'outils qui peuvent se conjuguer. Médicaments, traitements locaux, activités physiques adaptées, psychothérapie. Et les techniques de neurostimulation, comme le TENS, sont actuellement en plein essor. L'envoi de messages électriques vient brouiller le message douloureux. À 52 ans, Katia accumule les problèmes de santé. Elle est suivie à Ambroise-Paré pour une neuropathie des petites fibres, un syndrome douloureux chronique.
Enfin, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'arrivais plus à me lever. Je leur disais que j'avais des douleurs qui étaient, en l'occurrence, des grosses brûlures. C'est une douleur qui m'empêchait de garder les vêtements, tellement elle était forte. Alors je les mettais, mais chez moi, en fin de compte, je ne mettais que des shorts. La texture brûle énormément. Comme si vous aviez un fer à repasser qu'on vous mettait sur la peau. Et surtout, j'avais beaucoup de fourmillements et des pics. Et je ne savais pas ce que c'était. Et tout le monde, en fin de compte, me prenait honnêtement pour une folle. Hein, parce que ça durait plus d'un an et demi. Et un jour, je suis tombée sur la neurologue Madame Note. Et elle m'a cru en moi. On m'a donné des médicaments. Le problème, c'est que les médicaments ne me faisaient rien. Et vu que j'étais déjà sous morphine, ça ne faisait pas grand-chose. Donc un jour, la neurologue m'a dit « Tu vas aller au centre antidouleur, donc à Ambroise-Paré, et il faut que tu consultes. » Donc je suis arrivée ici. Enfin, on fait une demande de dossier, hein, ça ne se fait pas comme ça. Et ça s'est fait, en fin de compte, pas tout de suite. Hein. C'est étape par étape, en fait. Vraiment, comme on dit, c'est step by step. J'ai commencé par faire des patchs de Cutenza, je crois que ça s'appelait. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on m'a fait la stimulation du cerveau. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en haut. Et puis, ça ne marchait pas non plus. Et là, après, on m'a dit, écoutez, on a un protocole de cannabis. On va vous mettre dedans. Donc, j'ai intégré, je crois, ça fait maintenant un an ou un an et demi, le protocole. Et c'est spectaculaire. Je peux vous assurer que moi, ça m'a changé ma vie. Alors après, ça n'a pas agi, parce que moi, j'ai trois douleurs différentes. Mmh. Donc, ça n'a pas agi tout seul. Moi, c'est trois choses qui font que ma vie va un peu mieux. C'est-à-dire, il y a le cannabis, il y a les piqûres de Botox, et surtout, il y a une perfusion de tous les trois mois de kétamine. Et si je peux vous expliquer, quand je suis arrivée ici, dans le service, quand j'ai rempli ma fiche, j'étais à 9, voire 10 de douleur.
Sur 10.
Sur 10. Et quand là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que je suis 4-5 dans mes gros moments.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur.
Elle lutte, elle se débat. Oui, alors bonjour, je m'appelle Chiara, j'ai 24 ans. C'était quand j'avais 11 ans que j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Pour faire simple, on ne savait pas ce que j'avais.
Ça se manifestait comment ?
En fait, c'était des douleurs gynécologiques très, 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 très fortes, très, très compliquées, qui n'avaient pas de lien avec d'autres choses et qui sont arrivées du jour au lendemain, un peu comme littéralement l'épée de Damoclès qui vous tombe au-dessus de la tête. Et en grandissant, en voyant d'autres médecins, en ayant d'autres soucis, des soucis articulaires par-dessus, un nombre de chirurgies assez conséquent, des problèmes de luxation, d'épaule, de hanche, de peu près toutes les articulations que vous voulez, mon médecin traitant a commencé à penser à un syndrome, le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est une maladie génétique, plus ou moins rare, avec un spectre de pathologies assez large, et qui m'a dit qu'il faudrait peut-être commencer à chercher là-dessus. Donc c'est là que nous sommes entrés dans la partie génétique de la recherche. Vous entrez un petit peu dans la quatrième dimension. J'ai pu trouver des médecins, dont un interniste qui me suit désormais, qui a bataillé aussi pour qu'on puisse faire un peu tous les tests génétiques qui sont liés à cette maladie. Et donc j'ai bien le syndrome d'Ehlers dans l'os, à chevauchement, à forme de chevauchement, qui est un peu une forme, ma petite forme à moi, dirons-nous, qui explique pas mal de choses. Ça change pas grand-chose à ma vie, on va pas se mentir, parce qu'il y a pas de traitement. Le traitement, littéralement, c'est le mouvement. Le seul traitement, c'est la musculation, la kinésithérapie du sport. Et voilà.
ici, dans cet hôpital, de quelle manière est-ce que vous êtes suivie?
J'ai rencontré une médecin qui m'a proposé de faire de l'hypnose médicale et de passer par ce qu'on appelle le TENS, de façon auriculaire. En fait, on a une électrode dans l'oreille et ça va aller stimuler le nerf vague pour rééquilibrer le système sympathique et parasympathique et aider à ce que la... Comment dire? En fait, votre cerveau, il envoie un signal de douleur quand il le ressent. Votre corps vous renvoie un signal au cerveau pour dire il faut envoyer un signal de douleur. En fait, ça fait une boucle et la boucle n'arrête pas de tourner. Et du coup, le TENS du nerf vague aide à pas complètement arrêter cette boucle, mais à diminuer la vitesse de rotation du message.
Ce qui fait que la douleur est un peu apaisée?
Alors, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai une diminution de ma douleur d'environ 25% avec cette procédure, ce qui est assez extraordinaire pour moi. Vraiment, ça prend du temps à se mettre en place, mais ça marche. En tout cas pour moi, donc c'est déjà chouette.
La douleur aujourd'hui, avec les solutions qu'on vous a proposées, vous la gérez comment? Elle prend quelle place dans votre vie? Comment ça se passe?
Alors, premièrement, je peux vous dire que je me suis vraiment construite avec la douleur. À une époque, moi, il y a demandé quand j'avais 15-16 ans ce que c'était la douleur. La douleur, c'était moi. C'était pas ça faisait partie de moi, c'était la seule chose qui me définissait. J'avais mal et j'étais malade. Bon, la douleur fait toujours partie de moi, mais c'est un peu comme une brique qui est là, qui est toujours là, qui est toujours très solide, parce qu'elle sera toujours là et elle va pas s'en aller, elle va peut-être diminuer un petit peu. Mais non, j'arrive à peu près à gérer, ça m'empêche beaucoup moins de faire des choses que ça m'empêchait de faire des choses avant. Avant, chaque fois que je faisais quelque chose, je le payais. Et des fois, je faisais quelque chose qui me faisait plaisir et pendant une semaine, mes douleurs étaient affreuses et j'étais au fond de mon lit. Depuis janvier, je ne paye plus ce que je fais et je peux continuer de vivre ma petite vie tranquillement, dans les limites du raisonnable, hein. Mais c'est déjà un grand pas. Donc, presque ça me va, en fait, même si ça restait comme ça et ça ne s'améliorait pas plus, je peux vivre une vie plus simple. Et vraiment, ça change la vie.
Très bien, merci beaucoup.
Mais de rien.
Je vais prendre ta douleur, la gré de la récré. Je vais prendre ta douleur.
Je suis à Pessac, dans le parc de l'hôpital Xavier Arnouzan, où se trouve l'Institut de médecine intégrative et complémentaire. Ici, il y a des consultations d'hypnose clinique et thérapeutique et des programmes de méditation de pleine conscience. Et je vais aller rencontrer un groupe de patients qui apprennent l'auto-hypnose.
Est-ce que ça vous semble clair pour commencer? Donc, vous pouvez déplacer les chaises, hein, investir la salle comme vous voulez. Oui, vous pouvez vous mettre...
Alors, il s'agit d'un groupe d'apprentissage collectif de l'auto-hypnose. Donc, tous ces patients sont suivis en structure douleur au CHU de Bordeaux. Ils ont été adressés pour une prise en charge complémentaire en hypnose. Donc, ils ont tous bénéficié d'une première consultation en individuel et d'une première séance en groupe, qui a été la séance d'initiation à l'auto-hypnose. Là, c'est la séance 3. Donc, on va revenir sur les difficultés d'apprentissage et puis poursuivre ce groupe d'apprentissage collectif.
Il y a combien de séances en tout?
5.
Est-ce que vous voulez nous préciser là les difficultés?
Les séances d'auto-hypnose par elles-mêmes, pour l'instant, j'ai pas réussi. J'ai le même problème que Bruno, on est parasité par d'autres problèmes à côté. Bon, on n'a pas les mêmes tous les deux, mais ils sont importants aussi. Mmh. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver la concentration. Mmh. On n'arrive pas à lâcher prise. Mmh. Et là, j'ai fait, depuis la dernière séance, j'ai fait 3 énormes crashs, à rester 4 jours au lit, à ne pas pouvoir bouger. Le premier jour du premier crash, je n'ai même pas pensé à faire de l'auto-hypnose. J'étais dans le lit, je pleurais de douleur. Et à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça ne m'est pas venu, tellement c'était douloureux. Alors après, Cathy, on avait parlé avant, le même problème, je crois qu'on est plusieurs à être parasités par d'autres choses. Et c'est ça qu'il faudrait que vous nous indiquiez, comment faire pour lâcher prise.
C'est vraiment le sujet de la séance d'aujourd'hui, en fait. Donc voilà, on y arrive, hein,
Les pensées parasites, alors on ne peut pas les supprimer, je pense que c'est commun, on en a tous, et elles vous ont gêné au moment de la phase d'induction. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu voir comment on peut créer comme un bouclier anti-pensée parasite, ou une bulle, comme vous voulez. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir les mettre à distance pour pouvoir dissocier, puisque c'est ce dont vous avez besoin pour réussir votre séance d'auto-hypnose.
Après, en discutant tous les deux, tu me dis si je me trompe, mais on a constaté quand même les quelques petites fois où ça a pu marcher, en fait, la douleur. Et on s'est posé la question, même quand on maîtrisera bien l'hypnose, la douleur, elle sera toujours là. C'est juste, que, voilà, on va apprendre à notre cerveau à faire. C'est comme quand on a le TENS. Quand on a le TENS, en fait, on a toujours la douleur, mais le fait d'avoir les petites sensations de frémissement et tout, eh ben, ça nous soulage parce que notre cerveau, il pense à autre chose, en fait.
Ce que vous allez obtenir, c'est vraiment ce qu'on a décrit au début ensemble, la modification des perceptions corporelles. C'est parce que les perceptions corporelles vont être modifiées que vous allez être plus confortable. Mais effectivement, c'est pas magique et la douleur, elle va pas disparaître.
Pour la canalise comme ça.
Eh oui, je comprends. Je comprends. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, en modifiant les perceptions corporelles, vous êtes plus confortable. Et plus vous utilisez l'auto-hypnose, et plus vous vous entraînez, plus vous envoyez ces messages-là.
Ok,
merci.
Ah ben alors moi c'est le gros freestyle à côté de vous tous. Alors moi déjà j'ai une vie qui est hyper trépidante. Moi il me manque clairement le temps. Donc moi l'auto-hypnose je le fais tout et n'importe comment, mais ça se fait naturellement. Je vais faire un soin du visage, truc qui les électrodes, truc qui fait mal, je pionce. Je me fais détatouer, je pionce. Je pionce pour tout en fait, réglé. Donc moi effectivement l'auto-hypnose, dès qu'en fait je vais poser le cerveau, ça se met automatiquement. Je sais pas si je pars à la plage, à la montagne ou quoi, je respire, terminé, je suis plus là. Je recharge à fond. Et en fait, c'est ce qu'on disait. Moi, je pense que, comme toi, Bruno, je le faisais naturellement, puisque moi, ça fait 30 ans que j'ai cet handicap et les douleurs. Je ne prends pas de morphine, je prends rien. Je le prends que quand je suis en cas critique, et ça arrive rarement. Et du coup, c'est ma protection, donc je me mets comme ça. Par contre, je suis hyper speed, et c'est mon autre protection, parce que c'est ce qui me permet de générer mon endorphine et de canaliser ma douleur. Et en fait, à l'inverse de toi, c'est que quand je monte en pression, en fait, d'un seul coup, c'est comme si je prenais du recul, je me remets dans l'ancrage et je me dis « Ok, ça m'appartient pas, tranquille biloute. » Et voilà, et j'essaye, tu vois, de suite de redescendre. C'est cool. Et l'auto-hypnose, elle est intéressante pour ça parce qu'elle t'enlève pas les douleurs, mais elle permet de relâcher ton corps et de dissocier ta douleur et en fait de l'accepter. C'est ton ennemi et en même temps, il faut que tu en fasses ton ami. C'est pas évident, mais en fait... Il n'y a que toi qui peux la canaliser, il n'y a que toi qui peux la comprendre. Mais ouais, l'auto-hypnose, moi, ça m'aide beaucoup.
Ok. Et rappelez-vous, hein, il n'y a pas de surdosage avec l'auto-hypnose. Je vous invite vraiment à l'utiliser à chaque fois que vous y pensez, que vous en avez besoin.
Ce que je voulais dire, c'est que d'être en groupe, ça aide. Ça aide moralement, ça aide... Et oui, il faut continuer les groupes. À l'unanimité.
Je vous laisse, j'ai pétanque à 13h30.
Il n'y a aucun souci.
Je suis désolé.
Je t'en prie.
J'ai du monde qui va m'attendre. Écoutez, je vous remercie.
On n'a pas tous la même vie. Hein,
je vous remercie.
Bon courage. Bonne pétanque.
À tout le monde.
À bientôt. Salut, ça vient, Bruno.
Ça, c'est parfaitement normal. Il n'y a rien à faire. Juste à laisser faire tranquillement. Comme la respiration. Ce mouvement naturel. Voilà, c'est très très bien tranquillement.
Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Marie Flossia. Je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Je suis médecin algologue, c'est-à-dire spécialiste de la douleur, gériatre également. Et je suis donc chef de service du service douleur et médecine intégrative du CHU. En tant que médecin dans un CHU, forcément, je vais aller chercher ce qu'il y a de données probantes, de la littérature, avec des bases scientifiques solides. Et donc, c'est pour ça que nous, on a développé beaucoup l'hypnose et la méditation au CHU de Bordeaux, puisqu'on a des bases et des études qui concernent la douleur très, très intéressantes. déjà sur l'hypnose elle-même et sur son mode de fonctionnement au niveau neurosciences. Hein, on sait qu'il y a un mode de fonctionnement du cerveau sous hypnose qu'on peut identifier. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais en tout cas, on voit effectivement que certains réseaux de notre cerveau se modifient sous hypnose. Et c'est la modification de ces réseaux-là qui explique certains effets que nous, on raconte quand on est sous hypnose. Par exemple, le fait de se sentir un peu dissocié, le fait d'arriver à se recentrer sur ses émotions, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à bien connaître. Et puis après, en ce qui concerne la douleur, bah, c'est ce qui a été le plus étudié en hypnose. Enfin, l'hypnose et douleur, parce que c'est entre guillemets facile de déclencher la douleur de quelqu'un. Donc on fait des expériences à ce niveau-là. Et puis il y a eu énormément d'études, même chez des patients qui ont des douleurs chroniques, donc qui sont là depuis longtemps. Et on voit effectivement qu'il y a des résultats. Le gros avantage de l'hypnose, c'est que ça va agir sur toutes les composantes de la douleur. La douleur, il y a la composante sensorielle, hein, ce que je ressens. Il y a la composante émotionnelle, comment je ressens, est-ce que je suis angoissée, etc. Il y a la composante comportementale, et puis il y a la composante cognitive, qu'est-ce que j'imagine. Et l'hypnose va fonctionner sur toutes ces composantes de la douleur. Donc ça, c'est vraiment le gros intérêt de l'hypnose. Mais j'insiste sur le fait qu'elle est en complément des autres thérapeutiques. C'est pas à la place d'eux, c'est vraiment en complément.
Et ça permet de mettre la douleur à distance ? On peut dire ça comme ça ?
Ça permet de laisser une trace à la personne d'un endroit où ce n'est pas douloureux. Et plus cette trace va être activée et va être présente, plus elle va prendre de l'ampleur. Vous savez, comme quand vous jetez un petit caillou au milieu d'un lac, vous voyez le cercle qui s'agrandit, ben là c'est pareil, petit à petit c'est un refuge qui va pouvoir s'étendre et qui va apaiser en fait toutes ces parties différentes de la douleur et permettre de garder de plus en plus longtemps à chaque fois les sensations de confort.
La douleur frappe dès le plus jeune âge. La pédiatre Catherine De Volder s'est beaucoup battue pour que la douleur des enfants soit mieux prise en compte et soulagée. Elle est très investie dans l'association Sparadrap qui aide les enfants à avoir moins peur et moins mal lors des soins. Je la retrouve à la consultation enfants et adolescents du CHU d'Amiens.
Bon alors Romain, on s'était vu le mois dernier. Oui, t'avais quand même 2 à 3 migraines par mois quand même. Hein.
Ouais.
Et au niveau de tes céphalétensions, t'en as fait beaucoup ?
Moins qu'avant, mais j'en fais quand même.
Est-ce que dans une semaine, par exemple, si on prend la semaine dernière ?
J'en fais un ou deux.
Alors c'est bien la céphalétension, hein, comme un casque hein, oui. Qui te serre la tête, mais pas trop fort, t'arrives à faire tes activités, mais t'as quand même ce petit mal de tête qui dure. Alors qu'est-ce que t'as fait là ? T'avais déjà appris un petit peu de technique avec Amélie ?
Oui, une respiration.
Donc
et
t'as
là,
fait
on vient d'en faire une autre.
Une autre technique qu'elle t'a appris, d'accord. Au niveau de ton sommeil, t'as un bon sommeil ?
Oui.
Parce que tu sais bien que si on est privé de sommeil, ça va favoriser quand même de l'anxiété.
Oui, la routine. Une routine.
Donc toi, tu te couches vers
21h30, 22h.
Bah, c'est pas mal pour un ado.
Et je me réveille à 7h30.
7h30. T'as pas de réveil nocturne ?
Non.
Ok, pour la nuit. Ton appétit, alors, donc t'as bien augmenté tes apports ?
Ouais, je mange tous les matins maintenant.
Ah, un vrai petit déjeuner ?
Oui.
Alors c'est quoi
des tartines de Nutella et de beurre.
On avait dit aussi, hein, il ne faut pas y hésiter, le fromage, des choses, ouais. Hein, tu as besoin de tout ça. D'accord, et il y a un petit déjeuner que tu n'avais pas avant. Alors ça, c'est sûr que ça retire hein, les migraines de fin de matinée. Parce que si tu sautes ton petit déjeuner, tu vas être en situation de jeûne et tu vas déclencher une migraine. Quand on repère que les migraines elles arrivent en fin de matinée, c'est souvent parce qu'on n'a pas fait le petit déjeuner. Bah, au lieu de 2 migraines par semaine, on est arrivé à 2 en 6 semaines. C'est pas mal, quand même.
Oui, oui.
Hein ? Bravo,
oui, oui.
C'est bien.
Bonjour, Catherine De Volder. Donc, moi, je suis pédiatre depuis très longtemps. Très souvent, ils arrivent un peu désespérés dans nos consultations, hein, en se disant, de toute façon, on a tout tenté, on a tout essayé, rien ne marche. Mais je leur dis toujours, on n'a vu qu'une partie. On n'a pris en charge qu'une partie, on n'a pas pris dans la globalité. Au point de départ, il y a eu une entorse, quelque chose. Mais après, tout ce qui va s'enclencher, ça va être une vraie pelote de laine et il va falloir que nous, on retire fil après fil. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, les croyances, ce qu'ils ont entendu, c'est dans ta tête, on ne croit pas. Encore hier, une jeune de 17 ans, mais elle en pleurait. On ne me croit pas, on m'a dit, bon, c'est bon, allez, maintenant... tu n'as rien, ça rend les enfants, les adolescents encore plus déprimés. Ils ont l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce que ça va être leur vie, en fait, hein, d'être tout le temps douloureux comme ça Et donc, prendre en charge la douleur chronique de l'enfant et de l'adolescent, c'est obligatoirement une équipe
Je disais toujours, c'est pas un pédiatre tout seul, on ne peut pas y arriver. On travaille avec l'enfant, on travaille pas pour l'enfant, on travaille avec lui. Et on ira le chercher où il est, avec ses centres d'intérêt, et lui redonner confiance dans toutes ses capacités. Ils en ont énormément, les enfants.
La prise en charge de la douleur de l'enfant, elle est relativement récente. Vous avez vu comment elle a été progressivement prise en compte ?
Ah ben, on pourrait dire que de ces 30 dernières années, c'est une révolution. Enfin, on n'avait pratiquement rien dans les années 90, tant dans les moyens, dans les médicaments, c'était vraiment terrible, cette période-là. Ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a eu une prise de conscience et surtout des études qui ont montré que les tout-petits vont garder comme une cicatrice quand ils ont eu des douleurs très petits, et qu'il faut vraiment les prendre en charge très tôt et d'emblée, de toute façon, parce que sinon, on va avoir une mémorisation de cette douleur, une sensibilisation même dans le corps, au niveau médulaire. Et les douleurs suivantes seront plus intenses, plus importantes. Alors que dans les années 90, on se disait « Oh, il est petit, il oubliera. Oh, de toute façon, les systèmes sont immatures, ils vont rien sentir. » On s'est permis de faire des gestes, mais même des choses vraiment redoutables, même des interventions où les enfants n'étaient pas suffisamment soulagés pendant l'intervention. Là, c'est inimaginable, ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment les moyens, même pour sont arrivées des crèmes anesthésiques, même pour une prise de sang. L'enfant redoute les piqûres, redoute les piqûres. Et quand il est très jeune, c'est pas la perception de la douleur comme nous adultes. Donc, c'est d'autant plus important de s'en occuper. Souvent, je dis quelquefois, quand des parents veulent pas attendre trois quarts d'heure, une heure, que la crème anesthésique puisse endormir la peau, ben, je leur dis, vous savez, certains gestes sont, c'est pratiquement un équivalent chez un très jeune enfant d'une ponction lombaire qu'on ferait un adulte. Donc là, il faut quand même vraiment s'en occuper de cette douleur.
Et il faut s'occuper de la douleur jusqu'à la fin de la vie. Cette préoccupation est au cœur des structures de soins palliatifs qui accueillent des personnes atteintes de maladies graves, évolutives ou terminales. Nous voici à la maison médicale Jeanne Garnier, dans le 15e arrondissement de Paris. Là aussi, l'approche est pluridisciplinaire. Bonjour. Merci.
Okay. Et vous êtes entrouverte pour Jérôme, du coup ?
Oui.
Alors qu'on est là, tu crois ?
Va lui redire ça, Lorient, ouais, parce que...
Jérôme Frappier, je suis médecin à la maison médicale Jeanne Garnier. Je suis aussi anesthésiste réanimateur et je suis président du comité de lutte contre la douleur de l'établissement. La douleur rebelle en soins palliatifs n'est finalement pas si fréquente que ça. Disons, 10 à 20% des patients souffrent de douleurs difficiles à traiter. Cette douleur, elle a été décrite comme étant la douleur totale, ou la douleur globale, la total pain, par Cicely Saunders, qui est la grande dame des soins palliatifs. Ça veut dire qu'à côté des phénomènes physiques, qui sont ce à quoi on pense en premier quand on évoque la douleur, Il y a un entremêlement, comme une tapisserie, comme un tissu complexe de paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui sont à la fois sociaux, qui sont culturels, qui sont relationnels, qui sont spirituels, qui sont psychologiques. Et il est tout à fait vain d'espérer soulager la douleur physique d'un patient à l'approche de sa fin de vie uniquement avec des gélules ou avec des piqûres. C'est ce qui justifie pleinement une prise en charge absolument globale et le succès de choses qui peuvent sembler assez éloignées des habitudes, comme les méthodes non médicamenteuses.
Et vous êtes toujours en quête de nouvelles solutions ?
Oui, parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles questions. On doit en permanence se remettre en question. On passe notre temps à travailler dans l'incertitude, dans une incertitude qui met souvent à défaut la formation orthodoxe qu'on a eue à la faculté, qui nous oblige à être créatifs, voire à nous remettre en question nous-mêmes. On a une seule exigence qui est l'évaluation, c'est-à-dire on doit absolument être prêt à toutes les hypothèses, mais surtout évaluer les faits, garder ce qui marche et arrêter ce qui ne marche pas.
Verena Mitsui et Sophie Robillard pratiquent l'aromathérapie, l'utilisation des huiles essentielles pour agir sur différents symptômes.
Bonjour, Sophie Robillard.
Enchantée.
Ben, la mitouille, elle est parce que là, il y a beaucoup de parents.
Tout d'abord, on demande toujours au patient s'il est d'accord qu'on lui présente des huiles essentielles. On lui présente l'odeur pour être sûr en premier lieu que l'odeur n'est pas désagréable pour lui, pour que ça reste un moment agréable. Et puis, on fait des massages aux endroits où le patient se plaint d'un inconfort. Ce sont souvent des lieux où soit les muscles sont tendus ou il y a des douleurs qui apparaissent. Et ils ont un massage à cet endroit-là.
Et comment les patients réagissent ?
On peut obtenir des résultats étonnants. J'ai le souvenir d'un patient assez jeune qui avait des doses de morphine très importantes. Il avait une pompe à morphine. Et en fait, cet homme-là disait que le massage avec le mélange qu'on lui proposait pour la douleur était plus efficace que les bolus de morphine. Souvent, il y a les patients qui automatiquement répondent en disant « Ah, mais ça me fait penser à tel souvenir, à tel endroit. » Voilà, et ça permet, je pense, ça fait un petit lien avec l'hypnose, en fait, de penser à autre chose. Et du coup, ça distrait aussi de la douleur par cette odeur qui permet de voyager dans la pensée. Et il y a un autre aspect qui me vient juste, je pense, un lien ou un lieu où l'aromathérapie peut être très intéressant, c'est un moyen où les familles peuvent être impliquées dans les soins. Souvent, pour les familles, c'est difficile qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose pour leurs proches en fin de vie. Apporter de la nourriture, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Des longs échanges, c'est pas toujours possible. Mais du coup, nous, on peut les initier à faire des massages avec des huiles, leur expliquer, et ça permet de maintenir un lien avec leurs proches.
Bonjour. Comment ça va? Oui. Un petit peu moins bien que l'année dernière. C'est mieux, il est mieux qu'hier, en réalité.
Bonjour.
C'est
une star.
C'est une star, autographe.
Ah bah super.
Alors, vous voulez bien que je vous pose quelques questions?
Oui. Je m'appelle Alain Schulbach. J'ai 82 ans, ce qui fait énormément du bien. C'est d'abord d'être entouré, parce que le personnel est totalement à l'écoute et demande toujours si on a mal, si on a des difficultés, et ça permet de s'épancher. Et il y a même une psychologue pour pouvoir échanger avec elle sur les moments difficiles.
On m'a parlé d'aromathérapie, d'hypnose. Oui. Est-ce que tout ça, ça vous intéresse? Est-ce que ça fait du bien aussi?
J'ai des problèmes de respiration et on m'aide avec l'aromathérapie.
En vous massant avec des huiles essentielles?
En massant avec des huiles essentielles, exactement. C'est agréable. Tous les massages sont très agréables. Et du moment qu'on s'occupe de vous, ça fait du bien et ça soulage.
Pour procurer du bien-être aux patients, Soizic Chauvel, aide-soignante, s'est formée au toucher-massage.
On est face quand même à des patients qui sont extrêmement angoissés. Donc on va parler de souffrance morale, qui est pour moi une douleur. Et cette qualité de présence via le toucher, je trouve, apaise beaucoup. Et peut être même plus efficace qu'un médicament anxiolytique qu'on peut administrer. Et c'est des patients qui recherchent beaucoup le contact aussi, qui ont peur de mourir. Donc rien que prendre la main, mettre une main sur une épaule, dans un soin, poser des mains sur des membres qui peuvent être parfois œdémaciés, douloureux, ou juste aussi certains patients qui ne sentent plus leurs membres, ça permet d'apaiser. Et puis ça apporte du bien-être aussi. Je me rappelle d'un monsieur, en fait, qui n'était pas beaucoup dans la toilette. Il n'aimait pas trop les soins d'hygiène. Et en fait, pratiquement tous les jours, j'essayais de le prendre en charge. Et en fait, on faisait vraiment une toilette minime. Et on était sur du massage du dos sur le côté ou massage des jambes, pieds. Et en fait, c'était un patient qui était toujours en position demi-assise dans son lit par rapport à sa toux qui le dérangeait. Et en fait, grâce à mes massages et à cette qualité de présence aussi par mon toucher, en fait, après le massage, je le retrouvais allongé et il dormait pendant 3 heures, quoi. Et quand j'allais le voir, il me disait « Mais merci, quoi, j'ai jamais été sur le dos comme ça ou sur le côté. Autant bien, pas dérangé par les quintes de toux. » Enfin voilà, des fois ça peut être quand même des situations très belles à voir, quoi. C'est leur dernier jour, leur dernière semaine de vie, et du coup, si on peut leur apporter tout ce qu'ils aiment, et bah voilà, c'est tout bénef.
Des solutions croisées pour dénouer la douleur. Grand reportage signé Aurélie Kiefer, réalisé par Jean-François Braun.
Grand reportage, Camille Magnard.
Et nous sommes de retour en studio avec vous, Aurélie, et avec notre invité, toujours en duplex, Damien, professeur Éric Serra. Je rappelle que vous présidez la Société française d'études et de traitement de la douleur. Alors, il y a quelque chose qu'on entend hein, tout au long du reportage, c'est l'importance de l'auto-évaluation de la douleur par le patient lui-même. C'est cette échelle de 1 à 10 que tout le monde connaît désormais, mais c'est quelque chose qui est assez récent finalement, que les médecins s'en remettent à ce que dit le patient de sa propre douleur.
Ah, tout à fait, ça remonte à une vingtaine d'années. Ça a été difficile au début à mettre en place, pas seulement parce que les médecins et les infirmiers avaient quelques difficultés à prendre en considération de façon prioritaire la parole du patient, mais aussi parce que les patients eux-mêmes avaient quelques difficultés à imaginer qu'on puisse comprendre leur douleur. Aujourd'hui, cela est réellement acquis. On voit ça dans tous les services d'urgence aujourd'hui. La plupart des patients sont immédiatement capable de dire, voilà, j'ai une douleur à 6 ou 7 sur 10, faites quelque chose pour moi.
Et puis ça dit quelque chose aussi de l'évolution du rapport de la médecine elle-même à la prise en compte de ce que dit le patient.
Tout à fait, c'est le patient qui est devenu un usager de la médecine et qui a un avis, une opinion et un vécu de sa maladie ou de sa douleur ou de son accident qui doit être pris en considération, en priorité. Donc l'auto-évaluation est la norme, la priorité dans l'évaluation de la douleur.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ne savent pas dire dans quelle mesure elles ont mal? Je pense aux bébés, mais aussi aux personnes en situation de handicap, avec des troubles cognitifs, donc qui sont en difficulté en fait pour exprimer cette douleur.
Alors c'est une question excellente. On a des éléments de réponse qu'on peut entendre d'ailleurs à travers les propos par exemple de Christian qui parle de sa douleur. À aucun moment il ne donne l'intensité de sa douleur et pourtant on entend à travers ses propos combien celle-ci envahit sa vie. On peut analyser aussi le comportement. Un bébé qui ne bouge plus, qui reste tout à fait immobile, est un bébé en grande souffrance. Une personne âgée qui se met à avoir des troubles du comportement plus graves que d'habitude est peut-être une personne âgée ressentant des douleurs. Donc on a fini par développer un savoir-faire d'analyse des comportements des gens, mais aussi, il faut le savoir, des échelles d'évaluation de la douleur. Et là, il faut remercier, féliciter, honorer certaines de nos pédiatres qu'il y a maintenant plus de 40 ans ont développé les premières échelles d'évaluation de la douleur chez des enfants ayant de graves troubles, de graves problèmes de santé et qui étaient trop jeunes pour pouvoir s'auto-évaluer. Hein, je pense à Annie Gauvin-Pichard. Pichard Léandry et Evelyne Pichard Léandry.
Et c'est un savoir-faire français aussi qui s'est répandu dans les 2-3 dernières décennies. Il y a une prise en compte plus forte de la douleur chez les médecins, on l'a dit. Comment est-ce qu'on l'explique? Ça vient de progrès dans la connaissance des mécanismes même de la douleur ou bien d'une demande de la société qui ne veut plus subir la douleur?
Comme d'habitude, c'est la conjonction de ces deux éléments, c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès considérables dans la compréhension de la douleur, dans les procédures thérapeutiques, mais tant que cela n'avait pas diffusé dans la société des soignants, mais aussi dans la société des patients, je dirais une trentaine d'années, ça n'était pas encore proposé à tous les citoyens douloureux. Donc cette conjonction à la fois d'une meilleure compréhension de la douleur, de meilleurs traitements de la douleur et d'une volonté politique, c'est-à-dire la société dans son ensemble, qui à partir de 1995, ça bascule beaucoup en 99-2000, hein, puisque c'est là, par exemple, on se met à faire l'auto-évaluation systématique de toute personne hospitalisée. C'est aujourd'hui une norme.
Mais médecin algologue, ça n'est pas encore une spécialité à part entière.
Alors, ça n'est pas une spécialité, c'est une pratique, on pourrait dire une surspécialité qui est reconnue par l'université. Par exemple, j'en suis un exemple, hein, mais je suis professeur de médecine de la douleur, on n'est pas beaucoup, une dizaine en France. Il y a des professeurs de médecine palliative, donc on voit bien que l'université s'intéresse à cela. Faut-il une spécialité de la douleur? C'est un autre débat. Mais indéniablement, il y a un progrès dans la connaissance, cette connaissance à diffuser, appuyé par la volonté politique.
Dans le socle commun de formation d'un jeune médecin aujourd'hui, le traitement, le rapport à la douleur occupe une place importante.
On peut toujours penser qu'elle est insuffisante. Elle était quasiment nulle il y a 20 ans. Ça représente aujourd'hui quelques heures. C'est encore trop peu. C'est une formation qui doit avoir lieu d'ailleurs toute la vie professionnelle, pas seulement le jeune étudiant en médecine ou le jeune étudiant en soins infirmiers ou le jeune étudiant kinésithérapeute. C'est toute leur vie professionnelle que ces professionnels doivent être accompagnés dans une formation à des connaissances et des soins qui ne sont pas toujours faciles, parce que vous l'avez entendu dans ce reportage remarquable, hein, c'est un grand reportage sur la douleur que vous avez fait.
C'est tout
vous
à fait
avez
ça.
Bien entendu que la parole des patients est essentielle.
Et cette...
Oui, j'espère. Et cette parole doit être analysée, comprise par les soignants. Ça n'est pas toujours aussi simple que cela.
D'ailleurs, les patients eux-mêmes ne se sentent pas tous légitimes à dire leur douleur, à demander à en être soulagés. Je pense notamment à un certain nombre de personnes âgées.
Oh, vous avez raison. Et oui, c'est j'ai mal, docteur, j'ai mal, mais bon, après tout, j'ai 90 ans. Et le médecin qui lui-même est un petit bébé, il a 60 ans, hein, par rapport à cette dame de 90 ans, il répond « Eh oui, madame, c'est l'âge ». Et les deux se quittent d'accord sans que cette dame ne reçoive le moindre médicament, parce que tout le monde sait que les médicaments, ça peut être dangereux.
On n'est pas tous égaux face à la prise en compte de notre douleur. On le voit aussi, et jusqu'à très récemment, les douleurs spécifiquement féminines, on l'a vu, on a beaucoup parlé de l'endométriose, mais étaient très peu prises en compte par les réponses médicales aussi qui pouvaient être apportées.
Tout à fait. Parmi vos témoignages, on a entendu Chiara qui dit que dès le début de son, quasiment dans son enfance, elle a présenté des douleurs pelvipérinéales qui pouvaient être en rapport avec ses organes génitaux, parmi lesquels existe l'endométriose, mais il y a d'autres, malheureusement, d'autres causes de douleurs chez la femme. Ce sont des douleurs qui, aujourd'hui, sont de plus en plus prises en considération, fort heureusement, avec même une obligation, faut le savoir, à travers notre pays, pour les établissements de santé de s'organiser pour répondre au mieux aux douleurs pelvipérinéales et en particulier aux douleurs liées à l'endométriose.
Aujourd'hui, on est sorti dans les soins du tout médicament, mais est-ce que malgré tout, aujourd'hui, il y a des molécules prometteuses vers lesquelles on peut se tourner ?
Alors, beaucoup de découvertes, beaucoup de compréhension, de mieux en mieux, les mécanismes de la douleur sont compris. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir systématiquement des réponses médicamenteuses face à chacun de ces mécanismes douloureux. Il y a des progrès, alors ce sont parfois des petits progrès, mais qui peuvent avoir un impact sociétal considérable. Une patiente, Katia, évoquait le fait que le cannabis avait changé sa vie. Certains patients peuvent être améliorés par le cannabis thérapeutique. D'autres patients ne tirent aucun bénéfice de ce cannabis thérapeutique. On développe, c'est vrai, ici ou là, de nouveaux médicaments. Il y a des traitements locaux qui sont particulièrement intéressants avec peu d'effets secondaires. Après, il y a des médicaments qui sont des médicaments très difficile à manier et qu'on réserve malheureusement à des formes graves de douleur, c'est-à-dire des formes de douleur à l'intérieur de maladies elles-mêmes graves et parfois terminales.
Sur ce qu'on a encore à apprendre de la douleur, est-ce que vous diriez que les recherches, les découvertes les plus prometteuses viennent plutôt de la compréhension des mécanismes physiques du ressenti de la douleur ou bien d'autres domaines dans lesquels on a encore beaucoup de choses à apprendre ?
Eh bien, il y a une association. Nous sommes des êtres à la fois faits de neurones et de pensées, de croyances et de souffrances dans notre corps. C'est ainsi qu'on est et nous sommes à évaluer d'une façon globale. Et les réponses thérapeutiques sont des réponses globales, multimodales, selon un modèle qui associe à la fois la biologie, la psychologie, le social et les gros progrès pour moi. Clairement, sont dans l'association de ces approches-là qu'on a très bien entendu dans ce reportage. On associe des médicaments, des traitements non médicamenteux, parfois à la chirurgie, pas toujours, mais parfois. Et chaque patient arrive à sculpter avec ses soignants les meilleurs traitements, ce qui l'aide le plus, ce qui le rend le plus autonome. On cherche à autonomiser les gens de façon à ce que ceux-ci reprennent un peu plus le contrôle de leur vie qui, on l'a entendu dans le témoignage de certains, est totalement submergé par la douleur.
Une dernière question sur le rôle des pouvoirs publics. Il y a eu des plans nationaux antidouleurs dans les années 2000. Ils n'ont pas été reconduits ces dernières années. Est-ce qu'on en a fait assez à ce moment-là pour mettre en place des structures ou est-ce qu'il faudrait remettre le sujet au cœur de l'action publique ?
Ben écoutez, ça a été tellement efficace ce que l'on a fait il y a 20 ans qu'on ne peut que appeler de nos voeux le renouvellement de ces actions publiques. Les progrès ont été réalisés et depuis, on peine à faire profiter à l'ensemble de la population des progrès qui sont là, pourtant, à notre disposition. Il faut développer la formation, il faut développer des plans, des organisations autour de la douleur. Ça peut d'ailleurs actuellement emprunter tout ce qui se fait dans le développement des soins palliatifs, de la douleur, les réflexions sur la fin de vie. Il y a effectivement des actions à mener et pas plus tard qu'il y a 10 jours, nous étions reçus dans notre société savante par les députés à l'Assemblée nationale pour exprimer aussi un certain nombre de souhaits, d'attentes de nos concitoyens à l'égard de la douleur.
Parce qu'il y a encore de fortes inégalités dans l'accès aux soins spécialisés, il faudrait encore renforcer le maillage en structures spécialisées comme les centres et consultations, évaluation et traitement de la douleur.
En fait, il faut accompagner l'organisation de ces structures. Il ne faut pas forcément plus de structures. Il faut que celles-ci soient mieux organisées, soutenues. Il faut que les départs à la retraite de certains médecins et infirmiers soient remplacés, ce qui ne se fait pas. Vous savez qu'on est dans un univers qui est très contraint au niveau financier. Et malheureusement, on voit des départs en retraite non remplacés qui correspondent quasiment, de fait, à des fermetures de structures. Donc on nous annonce 274 structures douleurs chroniques en France. En réalité, elles sont beaucoup moins nombreuses à fonctionner. Mais il y a un potentiel là, et je pense que les pouvoirs publics peuvent adroitement, et ils y réfléchissent, heureusement, peuvent adroitement s'appuyer sur ce tissu sanitaire de qualité.
Et bien c'est sur ces recommandations, sur ces attentes aussi que nous allons rester. Merci beaucoup, professeur Éric Serra, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous dirigez au CHU d'Amiens le Centre d'études et de traitement de la douleur. Merci également aux équipes d'ICI Picardie qui ont rendu possible ce duplex. Et puis Aurélie, pour l'aide apportée tout au long du reportage, vous teniez aussi à remercier la PHP Assistance Publique Hôpitaux de Paris ainsi que la Fondation Apicil qui soutient des projets de lutte contre la douleur. Enfin, merci à vous, Aurélie Kiefer, pour ce grand reportage à réécouter sur le site de France Culture et sur l'application de podcast Radio France. À la réalisation, c'était Jean-François Braun avec François Saint-Jour à la technique.